Merci pour toute la bonne nourriture qui a été préparée en secret dans les maisons, et voilà, toute l'église en a profité. Hein. Merci beaucoup et merci au Seigneur de nous prendre par la main, de nous aider à avancer. Alors, mon intention est d'être pas long cet après-midi, pas répéter ce qu'on a déjà dit, et de laisser du temps à l'échange. C'est aussi une manière d'avancer ensemble. Je vais dire quelques mots sur chacun des dons de l'esprit, des manifestations de l'esprit, de pneumatikos, qui sont énumérées dans ce chapitre 12. Voilà, on va juste en dire un petit mot. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout, mais on ne peut pas comprendre le Saint-Esprit entièrement. Ce n'est pas possible. Lui nous comprend, mais nous, on ne peut pas le comprendre entièrement. Il est trop grand. Hein. Paul le dit dans Romains 11, qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Ses voies sont incompréhensibles. Incompréhensible ne veut pas dire qu'on ne les comprend pas du tout. Ça veut dire qu'on ne peut pas en faire le tour. Hein. Compréhensible, ça veut dire qu'on ne peut pas, en faire le tour. Voilà, tout simplement. Alors, rapidement, quelques mots sur chacun. La parole de sagesse, je l'ai dit ce matin, ce n'est pas la parole d'un homme sage ou d'une femme sage, c'est une parole de sagesse donnée par l'Esprit à un moment donné. Pour orienter un échange, pour faire un choix, voilà, on est indécis, une parole de sagesse vient nous faire pencher du bon côté, pour mettre fin à un malentendu. Vous voyez, voilà, on n'arrive pas à se comprendre, et tout d'un coup, quelqu'un dit une parole qui permet de s'accorder. Oui, effectivement, c'est ça. Là, on est d'accord. Et au lieu de tergiverser pendant longtemps, mettre fin à une dispute, hein, à une dispute, ou de confondre un adversaire. Voilà, quelqu'un qui veut nous embrouiller, comme on dit, hein, nous embrouiller dans des théories, une parole de sagesse lui ferme la bouche. Voilà. Donc ça, c'est très précieux, bien sûr. Et ça peut être donné à n'importe qui, n'importe quand. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sage par nous-mêmes, étudier la Bible, chercher à comprendre, lire, tout ça, c'est possible. Mais voilà, la parole de sagesse est donnée, on pourrait dire, d'en haut. C'est la dimension verticale. Vous voyez ? La dimension verticale. La parole de connaissance, ce n'est pas la parole d'un homme ou d'une femme qui a passé des heures et des heures dans une bibliothèque à lire des livres, des livres, des livres, des livres. C'est une parole qui dévoile la connaissance que Dieu a sur un sujet ou sur une situation à quelqu'un qui le reçoit. Ce n'est pas toute la connaissance, mais c'est une connaissance qui permet de voir au-delà de l'apparence et qui permet, ben, si on ne comprend pas quelle est la situation, quelle est l'issue, pourquoi une situation est comme cela, la parole de connaissance va donner un élément pour au moins avancer, faire quelques pas et éviter qu'on se leurre, qu'on se trompe ou qu'on reste en panne trop longtemps. Voilà. Elle introduit un élément de connaissance nouveau pour élucider une situation et nous permettre d'avancer. Voilà. Le don de foi, il est dit, hein, à un autre le don de foi. Ce n'est pas la foi qui permet d'être sauvé, cela évidemment, la grâce de Dieu l'accorde à tous les croyants. Le don de foi, c'est un don qui permet de faire un pas audacieux dans un moment où tout le monde est un peu pris de court, on pourrait dire. Voilà. C'est une situation trop compliquée, les tenants et les aboutissants, on ne sait pas comment décider, et quelqu'un dit, mais voilà, je pense qu'on peut y aller maintenant. Il entraîne les autres avec lui. Ça vient de Dieu, c'est une bonne voie. Ça permet là aussi de, on pourrait dire, de sortir du rond-point, vous voyez. Il y a quand même un pasteur qui a dit il n'y a pas longtemps, il y a des ronds-points, et là, on tourne, on n'avance plus, et le pas de foi peut dire, voilà, c'est, voilà, cette voie, c'est la bonne, celle qui va nous permettre d'avancer un petit peu. Voilà. Donc, soit trouver une issue, soit entrer dans une action audacieuse. C'est-à-dire quelque chose qu'on n'aurait pas fait en temps utile, hein. Et on a l'audace de le faire. Voilà. Téléphoner à un directeur de supermarché pour lui demander s'il n'a pas des invendus, par exemple, hein, je pense à la discussion de tout à l'heure, là. Mais voilà, ce n'est pas dans la nature de le faire, mais quelque chose nous dit, tu peux le faire, hein. Ce n'est pas n'importe quoi. Voilà. Et donc, le don de foi nous permet d'être audacieux, y compris quand ce n'est pas notre nature. Bon. Les dons de guérison, c'est au pluriel, c'est curieux. Je ne suis pas un spécialiste des dons de guérison, hein, je dois vous le dire. Donc je ne veux pas en parler comme un savant. Je pense qu'on peut dire que c'est un avant-goût. Le don de guérison nous permet de goûter les prémices du monde à venir. Donc il n'est pas promis que tout le monde sera guéri. Tout le temps, on prie, la personne est guérie. Ben, peut-être que oui, peut-être que non. Quand ça arrive, hein, c'est le goût de ce que nous vivrons quand Dieu essuiera toute larme de nos yeux, qu'il n'y aura plus de deuil, plus de cris, et plus de douleur. Et donc c'est donné préventivement comme un encouragement. Voilà, comme je le comprends, ça peut être aussi une confirmation de la prédication de la parole. Hein. Dieu confirmait sa parole par des miracles et des prodiges. Et le don des miracles, eh bien, je ne sais pas trop comment on peut le distinguer du don de guérison. Mais, la guérison, le don de guérison, c'est un miracle en rapport avec la santé. Le don de miracle, c'est un miracle qui n'est pas en rapport avec la santé. Voilà. Quand Jésus multiplie les pains ou dit à la... Est-ce que quand Jésus dit à la tempête de se calmer, c'est un don de miracle? Je ne sais pas. C'est peut-être un don de foi. C'est comme ça que je le comprends. Hein, voilà. En un sens, peu importe de mettre un nom ou pas dessus. Hein, l'important, c'est d'être conduit et secouru par l'Esprit. Voilà. La prophétie, c'est pas facile à définir, la prophétie. L'apôtre Paul dit en Corinthiens 14 que c'est le don que nous devrions rechercher principalement. Donc on devrait avoir des antennes un petit peu attentives à cela, parce que c'est le don qui est utile, on pourrait dire, par-dessus tout. Alors le don de guérison aussi, mais enfin, ils sont tous utiles, bien sûr. Mais le don de prophétie, je dirais, c'est la parole que Dieu donne pour exhorter son peuple, le conduire. C'est l'enseignement de la Bible appliqué à un moment précis. Et aussi la notion de la conscience. Je pense que le don de prophétie parle aux consciences. Voilà. Parle plus aux consciences qu'à l'intelligence. Il vise la conscience. Et il y a au moins un verset, hein, 1 Corinthiens 14, 3 et 4, qui dit « celui qui prophétise édifie, exhorte et console. » Voilà. Il édifie, c'est-à-dire, alors édifier dans la Bible, ça veut dire « il contribue à l'unité ». Hein, c'est pas édifier, ça me fait du bien. Hein. C'est, édifier, c'est bâtir une maison, hein, c'est bâtir un édifice. Donc édifier, ça veut dire qu'il contribue à l'unité de l'Église. On se trompe souvent à ce sujet. Hein. Voilà. Édifier, ça veut dire construire un ensemble cohérent et pas ça me fait du bien. C'est comme ça. Donc il rappelle l'importance de l'unité de l'Église. Voilà. Il exhorte, ça veut dire, il dit, ne nous contentons pas de rester là, avançons, ne nous décourageons pas, et il console. La consolation, dans le Nouveau Testament, c'est à la fois consoler et défendre, c'est l'avocat. C'est, voilà. Il console, ça veut dire, ne t'inquiète pas, je suis là, mais voilà, ne t'inquiète pas, je suis là, ça veut dire aussi, n'aie pas peur, je te défends. Hein? L'avocat, il défend. Donc voilà ce que fait celui qui exhorte. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui est c'est désirable plus que tout, comprenez. Et c'est un don qui est accessible, à, je crois, à tous les membres de l'Église. Hein. Voilà. Il dit, je voudrais que vous exhortiez tous, que vous prophétisiez tous, il dit. Hommes et femmes. Voilà. Sans se prendre pour plus que ce qu'on est, bien sûr. Parce que la prophétie doit être... Elle peut s'égarer comme tout, et donc il faut vérifier qu'on est bien dans le chemin sécurisé par la parole de Dieu. Voilà. Elle peut aussi dévoiler ce qui est caché, la prophétie, et dire, voilà, attention, il se prépare des temps difficiles, ne perdons pas notre temps. C'est le moment de faire attention. Voilà. Hein? Ça peut être ça aussi. Il y en a encore trois. Le discernement des esprits, il permet de comprendre d'où vient l'inspiration de telle et telle parole, de tel ou tel comportement. Voilà. Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui est la motivation? Quelle est l'inspiration? Pourquoi cette personne fait cela? Et au nom de qui? Et dans quel esprit elle le fait? Et là, comme je disais ce matin aussi, le bon discernement permet d'aller outre les apparences. Quelqu'un qui a une excellente apparence, et son intention n'est pas bonne. Et voilà quelqu'un qui n'a pas d'apparence, et il est envoyé par Dieu. Et donc voilà, nos apparences, nos sentiments, nos émotions, notre ressenti, notre vue peuvent nous tromper de multiples manières. Les discours persuasifs de la sagesse, voyez, et l'ennemi est très fort pour convaincre, attention, hein, il est très fort. Il sait ce qu'il faut dire au bon moment et le temps qu'il faut pour convaincre. Mais si ce n'est pas la vérité, il doit y avoir une lampe rouge sur le tableau de bord. Voilà. Attention, c'est rouge, n'y va pas. Donc c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et puis, voilà, les deux derniers sont, je l'avoue, pour moi, mystérieux, énigmatiques, mais ils y sont, je ne vais pas les zapper. Hein. Le don de parler diverses langues, voilà, et le don d'interprétation des langues. Alors là, il y a des livres qui ont été écrits sur ce sujet, des livres et des livres et des livres, et donc je ne vais pas résumer tous ces livres, mais je ne sais pas quoi dire. Hein. Il y a la xénolalie qui consisterait à parler une langue étrangère, comme on voit à la Pentecôte. On parle une langue connue par quelqu'un qui ne parle pas notre langue, la xénolalie, langue étrangère, et la glossolalie, qui serait la langue des hommes et des anges, la langue des anges. Mais quand Paul dit ça dans 1 Corinthiens 13, est-ce qu'il dit ça comme une hyperbole, ou est-ce qu'il parle vraiment d'une chose réelle? Je ne le sais pas. Voilà. Donc je vous avoue avec une grande humilité, je suis embarrassé avec le don des langues. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, hein. Je suis embarrassé parce que ça met l'intelligence de côté. Hein. Celui qui parle en langue ne parle pas l'intelligence. Il dit des mystères. Hein. Voilà, une de mes filles, elle me dit, mais si tu n'as pas à parler en langue, c'est même pas la peine de te lever le matin, quoi. Et limite, elle dit ça. Hein. Une de mes filles, elle me l'a encore dit il y a 3 jours, vous voyez. Et donc, je ne sais pas quoi lui dire. Est-ce que je me confie trop à mon intelligence? Du coup, je n'ai pas envie de passer outre mon intelligence, que Dieu me montre. Voilà. En tout cas, il y a le parler en langue. S'il n'est pas compris, plutôt à la maison. Plutôt à la maison, parce que lui, il s'édifie lui-même, c'est l'exception, n'est-ce pas? Et si c'est dans l'assemblée, il faut qu'il y ait un don d'interprétation, qu'il y ait un don distinct qui va permettre de dévoiler ce qui a été dit de manière obscure. Donc il y a 2 dons qui s'accordent pour dévoiler quoi? Soit une prière adressée à Dieu, une louange, soit une prophétie. Au lieu d'être donnée directement, elle est donnée par le biais, par un autre biais qui montre qu'on doit être dépendant les uns des autres. Et c'est dans ce passage qu'il est écrit, en Corinthiens 14, 26, que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Là, on a vraiment comme une... le mobile majeur, c'est cela. C'est-à-dire l'édification dans le sens biblique. C'est-à-dire que ça serve à consolider l'unité spirituelle et la maturité de l'Église autour de la personne de Jésus. Ça contribue pas à ça, pas la peine. Bon, mais peut-être on peut y avoir un échange sur ce premier point. Après, je donnerai encore quelques petits éléments. Mais si vous voulez, on peut déjà avoir un petit échange sur ce que je viens de dire à l'instant. Si vous souhaitez. Oui.
Quelle relation y a-t-il entre le baptême dans le Saint-Esprit et justement les divers dons?
Oh là 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 là. Quelle différence, non, quel lien il y a entre l'expression baptême dans l'esprit, oui, baptême de l'esprit, et l'émergence de ces dons? Dans le discours, dans la logique pentecôtiste, le baptême de l'esprit permet l'exercice de ces dons, notamment le dimanche matin pendant le temps de la louange. Alors, moi, je crois que ces dons, ils peuvent s'opérer n'importe où, n'importe quand, dans les maisons, etc., et pas simplement pendant le culte. Voilà. Et puis, voilà, il y a le parler en langue qui serait le signe manifeste du baptême dans le Saint-Esprit et qui ouvrirait à la possibilité d'exercer les autres dons. Aujourd'hui, même des pentecôtistes mettent un peu ça en cause. Sont moins sûrs de ça. Parce que c'est comment dire ça ? Le livre des actes est utile pour notre instruction, sinon on ne serait pas là. Mais ce n'est pas un livre d'enseignement comme une lettre de Paul. C'est un récit. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, ça s'est passé comme ça, ça nous intéresse beaucoup, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas dit qu'on doit faire... qu'on doit reproduire ça systématiquement. C'est quand même l'émergence de l'Église. Par exemple, vendre tous nos biens pour mettre tout en commun. Bon, l'Église de Jérusalem l'a fait, mais après, il fallait faire des collectes pour les saints de l'Église de Jérusalem, vous voyez ? Donc, ils l'ont fait. C'est historique. Luc écrit comme un historien. Il dit, j'ai fait une enquête, j'ai témoigné. Il n'est pas le témoin de ces choses. Il a fait un travail d'historien, quelque part, de journaliste, d'enquête, voilà. Donc, on est très heureux d'avoir le livre des actes, et on se laisse inspirer par lui. Mais il ne faut pas forcément en déduire des directives...
Doctrinales. Ce n'est pas une doctrine.
C'est pas une doctrine, exactement. Tout à fait. Alors, un jour, un pasteur, j'étais encore étudiant, hein, donc il y a longtemps, il m'a aidé à avancer en citant ce verset de 1 Corinthiens 12, « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Et moi, je me suis un peu arrêté de me casser la tête à ce sujet, parce que ce texte dit ça. « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Et là, le « tous », ben, c'est tous les chrétiens. Ce n'est pas une catégorie de chrétiens ou pas d'autres. Hein. Voilà. Et donc, j'ai cessé de me tourmenter, de me torturer l'esprit en me disant « Est-ce que je suis baptisé dans un esprit ou pas ?» etc. Voilà. Où c'est ce verset ? Voilà. 1 Corinthiens 12, 13. Voilà. Donc, je pense que être baptisé en Christ, c'est-à-dire uni à lui... dans sa mort et dans sa résurrection, c'est l'expérience de la régénération, de la foi, de notre union à lui pour former un seul corps. À mon avis, cette expérience n'est pas distincte de l'expérience du baptême dans cet esprit. Voilà, j'ai envie de dire cela. Et donc, le tous, voilà, Dieu opère tout en tous, et bien c'est chacun de nous. C'est pas parce que nos dons ne se manifestent pas comme dans les assemblées de Dieu le dimanche matin que nous n'avons pas des dons et qu'ils ne se manifestent pas. Et moi, j'ai envie de dire, bien, si vous êtes chrétien, si vous aimez le Seigneur, si vous êtes dans la foi, les dons sont déjà dans votre vie, même quand vous n'en prenez pas conscience. De votre bouche, peut-être, sortent des paroles de foi, des paroles de connaissance, des paroles de discernement, des paroles de sagesse. Et vous, simplement, c'est pas marqué « parole de sagesse », quoi. Mais vous avez donné une parole de sagesse. Et donc, j'ai envie de dire ça, non pas pour noyer le poisson, mais pour dire, ne convoit-on pas quelque chose de complètement étranger dont on n'aurait aucune part jusqu'à maintenant ? Nous le vivons déjà, peut-être nous pouvons le vivre davantage. Je dirais comme ça. Après qu'il y ait des blocages, ben, c'est bien possible. Hein ? Des blocages hérités de notre culture, hérité de notre famille, hérité de notre milieu d'église, hérité de je ne sais pas quoi, de nos expériences, des blocages. Et qui peut dire qu'il n'y a pas un blocage, hein ? Voilà. On peut toujours avoir un blocage. Et certains décrivent le baptême dans le Saint-Esprit comme un déblocage. Vous savez, comme quand on enlève une pierre sur un ruisseau. On enlève une pierre et tout d'un coup, l'eau s'écoule. Et donc, tout à l'heure, à table, on parlait d'étapes. Quelquefois, on est à une étape, on n'arrive pas à passer à l'étape d'après. Mais il faut un pas de foi pour passer à l'étape d'après. Il faut un pas de foi. Il faut abandonner quelque chose, vous voyez, abandonner quelque chose de l'enfant pour prendre quelque chose de l'adulte. Et ça, c'est jamais fini. Hein. Jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle, on peut franchir des étapes. À vitesse plus ou moins lente. Bon, mais j'ai entendu un jour un pasteur qui m'a dit « Le baptême du Saint-Esprit », mais bon, la Bible ne dit pas comme ça, mais... C'est un changement d'étape. Voilà. C'est rentrer dans une nouvelle dimension de liberté, de maturité, de foi, pour rentrer dans une mesure plus grande d'écoute, de sensibilité et de foi. Pourquoi pas ? Bon, voilà, je ne peux pas répondre mieux que ça, frère. Mais peut-être que vous avez votre idée sur ce sujet. Je ne vais pas poser une question, mais on a quand même une idée.
Non, parce que les apôtres semblaient avoir fait deux expériences à la Pâque et à la Pentecôte. À la Pâque, Jésus avait soufflé sur eux, il voulait recevoir l'Esprit. Et après, il y a eu, au moment de la Pentecôte,
diffusion.
Voilà, diffusion, c'est...
Alors, je vous avoue que je suis un peu désemparé devant cette situation. Je ne sais pas quoi vous dire, donc je ne vais pas inventer quelque chose. Parce que, comme vous, j'entends des chrétiens qui me parlent de leur conversion et puis qui me parlent de leur effusion de l'esprit, 6 mois après, 6 ans après, 50 ans après, comme deux expériences différentes. Et donc, je dis, bon, ben voilà, moi, je n'ai pas vécu ça et donc je ne sais pas quoi en dire. Ou bien je l'ai vécu de manière différente, je ne suis pas ce que j'étais il y a 30 ans ou il y a 50 ans, et donc j'espère avoir grandi. Je ne suis pas sûr que cette double expérience soit normative et doctrinalement étayée. Voilà, je ne suis pas sûr de cela. Ce que je vois, c'est qu'il y a des conversions incomplètes, des conversions sans repentance, des conversions sans conviction de péché, des conversions sans enseignement, et donc qui vont être complétées. Voilà. Ah, on n'avait pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Ah, on n'avait pas entendu qu'il fallait appartenir à une église. Ah, on n'avait pas entendu que Jésus-Christ était encore aujourd'hui le Seigneur. Et donc, il peut y avoir, comment dirais-je, notre bagage de chrétien, il doit se compléter sans cesse. Moi, je dirais malheur à celui qui pense que maintenant, ça y est, quoi, il a tout en main, il n'y a plus qu'à sortir dans la rue et faire les choses. Non, celui-là, il doit encore apprendre des choses. Voilà. Celui-là, il doit apprendre. J'ai vu des chrétiens plus comment dire cela ? J'ai vu des chrétiens plus enthousiastes que moi, plus enthousiastes, plus zélés, plus rayonnants que moi. Vraiment, j'en ai vu beaucoup, hein. Mais un certain nombre d'entre eux, je les ai vus dans le fossé quelques années après. Et quelques-uns ne se sont pas relevés. Et je me suis dit, c'était quoi ça ? C'était plus enthousiaste que moi et maintenant, on ne sait même plus où ils sont. Alors, je ne dis pas ça pour dire que j'ai raison, hein. Je dis ça pour dire que dans la balance, j'apprécie la dimension de la persévérance, du service. Voilà. Mais je n'ai pas tout compris et je suis prêt à apprendre encore ce que Dieu veut m'enseigner.
Comme on disait au début, c'est pas facile à comprendre.
Exactement. Alors, je ne nie pas que dans la culture qui est la nôtre ici en France, en Occident, hein, on a besoin de comprendre une chose pour signer.
Un peu cartésien.
Il est gentil, il dit un peu. Voilà. Mais ça, je ne peux pas le nier. Voilà. On a besoin de comprendre pour signer. Et en un sens, c'est normal. On ne va pas signer n'importe quoi. Vous voyez comme c'est difficile. On ne va pas signer n'importe quoi. Et en même temps, on ne peut pas tout comprendre quand Jésus dit à ses disciples « Laissez-vous filer et partez », qu'est-ce qu'ils ont compris ? Ils sont partis. Quand Abraham est parti, il est parti, vous comprenez ? Et donc, voilà, j'en suis au même point que vous, frères et sœurs. C'était même irrationnel. Et donc, l'Évangile est à la fois une folie et en même temps une grande sagesse.
C'est folie pour les hommes et sagesse pour Dieu.
Amen. Voilà. Faiblesse pour les uns et puissance pour les autres. Oui, ma soeur.
L'intimité, rechercher, aspirer.
Oui.
Ça veut dire qu'on a quelque chose à faire à quelque part. On doit tendre notre.
Oui, c'est exact.
On doit vouloir, je sais pas.
Oui.
On doit faire quelque chose.
Oui, tout à fait. C'est exact. C'est la responsabilité dont je parlais ce matin. On n'a pas qu'à attendre paresseusement. On doit aspirer, être utile. Oui, aspirer aux dons les meilleurs, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, il y a l'amour dans ces dons, quelque part. Hein. 1 Corinthiens 13 n'est pas là par hasard. Donc, il faut aspirer, ça veut dire l'attitude d'un mendiant, un peu. Hein. Seigneur, je n'ai rien.
Les désirer.
Condition que ce soit avec une bonne motivation. Parce qu'il y a aussi quelques expériences dans le livre des Actes où certaines ont convoité des dons de puissance parce que ça allait leur donner une prestance ou un pouvoir ou de l'argent. Voilà. Attention aux mauvaises motivations. Ouais. Si nous n'avons pas une bonne motivation, notre motivation est équivoque, intéressée. Et si nous recevons des dons de puissance, ça va tourner notre malheur.
Mais on n'est pas obligé de voir les choses négativement. On peut pouvoir le désirer parce que c'est un plus, c'est quelque chose.
Et si nous sommes dans une position d'humilité, Dieu peut nous enrichir de grandes richesses sans que ça devienne pour nous un piège. Et donc, voilà, l'humilité me paraît une attitude vraiment qui permet à Dieu de nous enrichir sans qu'on devienne des monstres d'égoïsme. Oui.
Oui, juste en parlant de convoitise là, par rapport aux dents, je me suis souvenu de quelque chose. Ça fait quelques années, j'ai suivi un pasteur, donc c'est habituel, qui parlait des dents, les dents de prophétie, les dents de guérison, les dents de miracle. Et dans ce sens-là, il disait qu'il y avait des gens qui ont cette capacité de voler le don de quelqu'un. Et je ne sais pas, mais comme on en parle, je voulais savoir, est-ce que vous en avez connaissance?
Non.
Est-ce que c'est faisable?
Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. En tout cas, ça ne me paraît pas un bon truc.
Voilà,
déjà,
je ne sais pas comment ça peut être possible, mais je m'étais posé plusieurs questions à ce moment-là. Et vu que là, je m'en souviens, voilà, est-ce que c'est capable, c'est possible de voler le don d'un quelqu'un, d'une personne, par exemple?
Je pense qu'il n'y a pas marqué dans la Bible.
Ça me paraît pas très bon parce que quand même ce matin nous l'avons lu, hein, un seul Dieu opère toutes ces choses, le même esprit distribue ces choses à chacun en particulier comme il veut. Donc attention de ne pas ravir, je dirais, quelque chose que Dieu ne nous confie pas, parce que ça risque de mal tourner.
Du coup là une deuxième question, comme vous avez dit hier, en fait il y a des gens qui possèdent certains dons mais qui ne sont pas conscient en fait du don qu'ils ont.
Oui.
Et des fois Dieu il fait grâce à qui il veut, parfois c'est un non chrétien qui a un don, parfois c'est un chrétien qui a un don.
Ouais.
Du coup nous en tant que chrétiens, est-ce qu'il y aurait-il des références bibliques, parce que je ne sais pas, ou y aurait-il un moyen qui pourrait nous aider en fait à aider ces personnes-là, que ce soit chrétien ou non chrétien, d'en être conscient qu'ils possèdent en fait un don qui peut mettre en œuvre pour le bien de l'Église. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
J'essaye de... C'est ce que j'ai fait ce matin, en disant, par exemple, chacun et tous, quand on voit ces deux mots, ces deux petits mots, chacun et tous, c'est vraiment comme un berger qui visite chacune de ses brebis de son regard, et aucune ne doit se mettre en retrait, aucune ne doit se dire non, pas moi, oui, toi aussi. Et donc, c'est la tâche pastorale, mais pas que pastorale, fraternelle, d'encourager les timides. Voilà, les timides, ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Et donc, quelqu'un qui dit, moi je suis timide, je vais cacher mon don sous le tapis. Mais attention, Jésus est sévère avec ceux qui cachent leur don sous les tapis. Hein. Il est sévère. Il dit, serviteur méchant et paresseux. Donc, c'est très embêtant. Et donc, on est vraiment gérant de ce que Dieu nous donne. Donc, aspirer, comme a dit la sœur, oui, aspirer à ses dons, avec une bonne motivation pour l'édification commune, pas pour se faire voir, et puis découvrir celui qu'on a, et je crois que un don, comment dire cela ? Je crois que le don, Dieu le donne quand il veut, comme il veut, il suffit de le recevoir. Le charisme peut se développer dans la grâce. Par exemple, Dieu, Paul dit à Timothée, « Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » De Timothée 2, 1. « Mon enfant, fortifie-toi. » Donc oui, dans la grâce, on peut recevoir par exemple un don d'animation, d'enseignement, d'hospitalité, d'accompagnement, etc. Et puis, il peut rester comme ça, tout petit, dans un coin, il peut grandir. Il peut grandir. En grandissant, il va se multiplier. Il va féconder d'autres dons. Ça, je le crois. Les ministères enfantent des ministères, les dons enfantent les dons, la foi encourage la foi. Donc il y a une fécondité, une fertilité, je ne sais pas comment dire, des ministères, des vocations et des services, qui fait que l'Église est contaminée par un esprit de service. Le but d'un pasteur, c'est que tout le monde ait un cœur de pasteur. Le but d'un évangéliste, c'est que tout le monde ait un cœur d'évangéliste, sans être évangéliste. Le but d'un enseignant, c'est que tout le monde puisse instruire quelqu'un d'autre. Le but d'un prophète, c'est que tout le monde est à cœur d'apporter la parole qui tombe juste, vous voyez. C'est comme ça que les ministères fécondent l'Église tout entière. Et chaque chrétien qui a un ministère fécond, un service fécond, avec des œuvres qui sont des sujets de joie, donne envie de rentrer. C'est pour ça qu'il y a des églises qui sont plutôt en panne, Parce que si les leaders sont en panne, tout le monde est en panne, à moins que Dieu vienne secourir cette église. Et dans une église où les dons sont comment dire ça, mis à l'œuvre dans une bonne disposition, il y a des modèles zélés qui ne prennent pas la place de Dieu, eh bien il y a une émulation. On pourrait dire que c'est psychologique, mais c'est spirituel aussi, hein, vraiment. Donc comment encourager? Ben, je dirais en étant fidèle là où Dieu nous a placés. Si je suis fidèle, je donne envie aux autres d'être fidèles là où Dieu les a placés, sans faire la même chose que moi. Oui.
Oui, ça m'amène à la question, et pour encourager, n'y a-t-il pas une problématique, on voit dans la parole, de la reconnaissance? Là, c'est les apôtres des encouragés, mais de les reconnaître, parce que certains, c'est après imposition libre, mais enfin, comment reconnaître ces...
C'est une
il me semble que dans l'Église, les livres et autres, il y a peu cette reconnaissance, et à rechercher comment à discerner et à reconnaître les dons.
C'est une bonne question. C'est parce que la culture, effectivement, où placer, par exemple, l'imposition des mains.
Oui, pour hein? envoyer des...
Voilà.
Des pasteurs.
Paul dit à Timothée, ranime en toi le don que tu as reçu par l'imposition des mains. C'est étonnant, cela. Hein? Donc là, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de fécondité, de contamination positive, mais... Là, elle va se transmettre par imposition des mains, ça veut dire par envoi. Et je pense qu'il dit de ne pas le faire avec précipitation. Donc, ce n'est pas comme ça au petit bonheur. Ça veut dire que quelqu'un qui a une vocation qui apparaît, qui émerge, qui se traduit par une manière de servir, qui porte du fruit, eh bien, celui-là, on peut lui dire « Écoute, dimanche prochain, on va prier pour toi, et les anciens vont prier pour toi, pour t'encourager. » Pour que tu sois affermi dans cette position et que tu grandisses et que ton ministère porte encore plus de fruits. Certains diraient ça va devenir piégeux parce que le gars il va dire ça y est maintenant moi c'est ça j'ai fait ce qu'il fallait aux autres de travailler. Ben, tout peut devenir piégeux, hein, même de rester au lit. Quoi. Mais je pense que la reconnaissance du ministère c'est dommage de la réserver qu'au pasteur. Voilà. Et donc, encourager quelqu'un qui est au service, eh bien, c'est bénir, tout simplement. Hein. C'est bénir, c'est dire on est avec toi, on est derrière toi. On œuvre ensemble pour la même cause. Tu n'es pas seul dans ton sillon, on est solidaire. Si tu as besoin, ne crains pas de faire appel. Et donc je pense que les vents contraires sont tellement forts, les sujets de découragement sont tellement forts que cette parole d'encouragement, elle peut être pas simplement symbolique, mais véritable. Je pense à une visiteuse de Monderie, eh bien, on priait ensemble tous les deux avant qu'elle parte, et pourtant elle était de l'église réformée, hein, elle était un peu pas trop instruite, on va dire. Hein. Elle me disait « maintenant tu m'envoies ». Ça voulait dire, tu pries pour moi et tu m'envoies. C'est-à-dire, je ne m'envoie pas toute seule, c'est toi qui m'envoies, le pasteur m'envoie. Et pour elle, c'était très important. Donc voilà, c'est une bonne question, je pense, que vous avez posée. Oui.
Moi, c'était un peu plus pratique. Comment dans notre église, pratique de notre église, voilà. La clé des champs.
D'accord.
Comment dans l'environnement où on est, on peut justement mettre en observer les dons qui existent dans notre église et comment on peut les encourager.
La clé des champs, c'est quoi?
Ça
s'appelle la clé des champs?
Oui, elle est située à l'université. Qu'est-ce qu'il y a avec les dénominations? J'ai du mal avec les dénominations. C'est souvent mon pari pour moi. Donc, la clé des champs.
D'accord. Les sœurs posent des questions pertinentes des fois, mais embarrassantes. Hein. Comment faire maintenant? Mais c'est une bonne question, comment faire? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Hein. C'est ce qu'ont dit les auditeurs de Pierre dans Acte 2. Hein. Et maintenant, que faisons-nous?
Le discernement.
Moi, je dirais que ces dons existent. Je dirais que ces dons existent. Hein. Puisque c'est Dieu qui les donne. On ne peut pas dire qu'ils n'existent pas chez Dieu. Dieu n'est pas en panne, si vous voulez. Hein. Je dirais que ces dons existent. Le Saint-Esprit, voilà, un même Esprit, un même Seigneur, un même Dieu, ils sont toujours là, comme au premier jour. Comme nous sommes l'Église de Dieu, désireux de le servir, d'être à notre place, je pense que ces dons, on n'a pas à les inventer, on n'a pas à les chercher sur la Lune ou je ne sais pas où. Ils sont là, ils sont plus ou moins discernés, ils sont plus ou moins reconnus, ils sont plus ou moins à l'œuvre. Et que il faut juste être attentif pour reconnaître ce que Dieu a déjà commencé à faire et ce qu'il veut faire encore maintenant, tout simplement. Hein. Être attentif. Ça veut dire quoi ? Être attentif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ouvrir les yeux.
On se regarde les uns les autres dimanche
matin. Je pense que pour être encore plus pratique,
oui.
Il faut tous venir à la réunion de prière déjà.
Pour qu'il y ait une saine émulation.
Oui. Une saine émulation.
Il faut qu'il y ait encore la possibilité aux membres de pouvoir exercer leur don, afin que l'ensemble de la communauté puisse discerner et dire voilà, ce frère, cette sœur a ce don, et ensemble, les anciens, on les envoie. Mais il faut donner cette liberté, je parle d'une manière générale.
Est-ce qu'on peut avoir peur de se les approprier ?
Ça dépend ce que vous entendez par approprier. Si vous vous dites, voilà, c'est à moi.
De les recevoir.
Est-ce qu'on aspire vraiment à manifester ces dons ?
Alors voilà,
ils sont disponibles, est-ce qu'on aspire à manifester ?
Voilà. Est-ce qu'on n'y aspire pas vraiment ?
Est-ce que si on reçoit un don,
oui.
Et que les dons.
Il y a eu beaucoup de questions,
mettons, on reçoit un don, je ne sais pas, moi. On fait des enfants et qu'après on n'a plus envie de s'occuper des enfants. Est-ce qu'on a le droit de choisir
Alors, la question a été évoquée tout à l'heure aussi à la table. Est-ce qu'on a un don pour toute la vie ? Ou est-ce que ce don peut évoluer en fonction des étapes et des circonstances ?
Voilà,
dans une église, il y a plus de surveillants d'enfants que d'enfants. Bon, ben, pas besoin d'une personne supplémentaire pour garder les enfants. Mais là, je n'appellerais pas ça un don, personnellement. C'est plutôt un service. Le cadre.
C'est plutôt un service.
Oui. Le cadre dans lequel les dons vont intervenir, ce sont ces trois histoires. C'est la vocation, l'appel que Dieu me donne, le service dans lequel je m'engage, qui est visible ou invisible d'ailleurs. Hein. Moi, je pense à une chrétienne dans l'église de Vauvert qui ne quittait jamais sa maison. Elle était casanière, elle ne quittait pas sa maison. Mais au téléphone, elle avait un ministère magnifique. Elle téléphonait à des frères et sœurs pour dire voilà comment ça va. Mais pas comment ça va, comme on dit à la sortie du culte. Hein. Comment tu vas maintenant ? Et pendant une demi-heure, une heure, elles étaient à l'écoute. Elles partageaient au téléphone mieux qu'un pasteur le faisait dans une visite. C'était un vrai ministère. C'était secret. Elle n'a pas raconté à tout le monde ce qu'elle avait fait pendant ce ministère. On savait qu'elle faisait ça, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tout ne passe pas par le micro, par exemple. Une fois, j'ai fait une visite, un petit enfant a dit « Le pasteur n'a pas amené son micro. Ben, » le micro, ce n'est pas le passage obligé du Saint-Esprit. Il y a plein de choses qui se font sans qu'on sonne de la trompette, comme dit Jésus, vous voyez ? D'ailleurs, ce qu'on fait en secret a plus d'importance que ce qu'on fait devant tout le monde. Et voilà. Vous comprenez ça ? Et donc là, il y a la prière en secret. Dans ta chambre, le texte grec dit « dans la pièce la plus reculée de la maison ». Là, ce n'est pas forcément la chambre. Ça peut être le cellier ou la cave ou sous l'escalier, je ne sais pas où. Oui. La pièce où personne ne va jamais. C'est là que tu vas te mettre. Vous comprenez ? Et Jésus se mettait tout seul à l'écart aussi. Et donc, c'est là, voilà, c'est là que le demeurer en Christ prend une réalité concrète quand même, dans le secret. Et c'est dans le secret que se préparent les choses qui vont être vécues, je dirais, tous ensemble. Ou à deux, ou à trois, ou à quatre. Hein. Voilà, donc ça c'est important, le secret, la dimension de l'écoute. Hein. Écouter, c'est... Voilà. À mon avis, le demeurer en Christ a un rapport avec l'écoute, vous voyez. L'écoute dans la Bible, c'est pas simplement entendre des sons, c'est recevoir. Voilà. Écoutez et votre âme vivra. Donc vous voyez cette grappe là-haut, Elle est à l'écoute du sceptre et elle reçoit. Et donc un chrétien qui n'écoute pas, qu'est-ce qu'il va recevoir ? Voilà. Un chrétien, quand il prie, il ne fait que parler, il n'écoute pas. Or, la prière que Dieu inspire, c'est la prière que Dieu exauce, c'est la prière que Dieu inspire. La prière que Dieu exauce, c'est la prière que Dieu inspire. Sinon, on est au petit bonheur de la chance. Hein, on fait 100 prières en espérant que sur 100, il y en a une qui sera plus ou moins juste. Non, non. Nous ne savons pas ce qu'on vient de demander, mais le Saint-Esprit nous conduit à demander ce que Dieu veut qu'on demande. Et si on demande ce que Dieu veut qu'on demande, on sait qu'on le reçoit. Vous comprenez? Donc l'écoute est très importante. Avoir une attitude d'écoute, c'est capital. Et ça passe par l'écoute des frères et des sœurs. Parce que Dieu peut parler de beaucoup de manières, mais souvent il parle par les frères et les sœurs. Donc quelqu'un qui n'écoute jamais les frères et sœurs, il ne faut pas qu'il s'étonne s'il ne reçoit pas de direction dans sa vie, par exemple. Mais on écoute le Seigneur au travers des frères et les sœurs, pas tout ce que tout le monde dit, sinon on est aussi perdu. Vous voyez, ce n'est pas évident, hein? C'est pas évident, parce que la grâce, elle intervient quand même dans des situations complexes et troublées. Hein. Mais, en tout cas, du côté de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Ça, la bonne nouvelle. Hein. Voilà. Du côté de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Le même Dieu opère toutes ces choses. Le Saint-Esprit distribue comme il veut à chacun. Et ça, je pense que on peut s'attendre à le voir. Je dirais que c'est en train de se vivre. Hein. Si ce week-end est organisé, c'est probablement que Dieu a souhaite nous prendre par la main, nous conduire un peu plus loin, et attendons-nous à lui. Et après, quand nous vivons une expérience positive, elle nous instruit, vous voyez. Une expérience nous instruit. Elle n'est pas normative, mais elle nous instruit. Elle confirme que la parole, ce n'est pas que des mots, quoi. Ce n'est pas théorique, la parole de Dieu n'est pas théorique. Elle est pratique, normalement. Comment?
Non,
vous avez raison.
Je pense que Lisa, ce qu'elle veut, c'est du concret. Ouais. Moi, je peux peut-être vous donner quelques exemples.
Si
on va voir, par exemple, ce que Alain fait. Il joue de la guitare, c'est un don de service qu'il met pour le bien de l'entreprise. On peut parler de.
Pardon ?
C'est pas
l'entreprise, pardon.
Non, c'est le don.
Non, mais je pense que Louisa, elle pose la question, mais tu as déjà la réponse. Parce que
pas du tout. Non. Alors,
je pense que si on s'approprie tout ce que vous dites depuis hier, ben on a compris qu'on se met à la disposition, on se rend disponible, et puis les choses arrivent. Toi, Louisa, il y avait la vaisselle à faire, ou préparer le repas, tu l'as fait. Je pense que ça, c'est des choses comme ça. Après, ça devient
assez
naturel.
C'est la vocation, c'est pas dans le don.
Pour prophétiser par la main ou par.
Moi, je parle vraiment des dons.
Voilà, ouais.
D'accord.
C'est comment, dans notre église, on discerne les dons de chacun, puisqu'on a été doté, et je suis sûre que le Seigneur n'a pas été en panne, et qu'on est l'outil de don.
D'accord.
Et dont on a conscience ou pas, dont on ne se sert pas dans l'église, oui. Comment aujourd'hui, vu que c'était un week-end sur les dons, comment notre église, elle profite de ça, comment
est-ce que le Seigneur donne à ceux qui ne veulent pas?
Est-ce que le Seigneur donne à ceux qui ne veulent pas?
Oui, avec le Seigneur, donne ceux qui veulent.
Déjà.
Peut-être aussi que chacun connaisse notre église aussi, parce que l'ensemble, on n'est pas toujours de la connaissance du corps à l'église. Il y a des personnes qui connaissent bien le fonctionnement de l'église parce qu'elles y sont depuis longtemps, qui connaissent l'évolution de l'église, il y en a d'autres qui la connaissent que depuis peu. Peut-être aussi, il faut savoir ce qui est le besoin de la communauté aussi. Et dans lequel pourraient s'inscrire certaines personnes avec leurs propres dons, et donc venir servir à ce moment-là. Alors, il faut qu'il y ait à un moment donné un manque pour savoir que on peut être appelé quelque part, se dire je suis bien là à faire ça, ou bien tout simplement quelqu'un vient te voir et te demande quelque chose, et tu te dis non, ça je ne le sens pas, je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, il faut qu'il y ait une interrogation et des connaissances, des besoins aussi. Parce qu'on va à l'église pour louer le Seigneur en premier, mais pour être avec nos frères et sœurs et contribuer à ce que chacun s'y sente bien et y trouve sa part de bénédiction.
C'est édifié.
Donc, il faut quand même qu'il y ait des gens qui puissent communiquer, que l'Église soit organisée, je veux dire, dans sa connaissance, pour distribuer la connaissance de où en est l'Église.
C'est vrai. Alors, Votre remarque me fait penser à un texte que j'ai écrit il y a très longtemps qui s'appelait « L'organisation de l'Église, ni trop ni trop peu ». Ni trop ni trop peu. Donc si tout est organisé, c'est un peu embêtant parce que du coup, on est comme une association bien huilée, comme une entreprise. Même si Dieu se retire, on continue, on sait faire. Voilà. Donc c'est trop organisé. Si ce n'est pas assez organisé, on rejoint ce que la sœur vient de dire. Ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui font la même chose et là, il y a tout un espace qui est vacant. Par exemple, je vous donne un exemple. Un chrétien engagé qui ne peut plus quitter sa maison parce qu'il est trop âgé. Voilà. Il ne peut plus venir à l'église. Il aimerait, mais il ne peut plus. Qui va le visiter régulièrement? Pas une fois tous les 3 mois. Il faudrait qu'il y ait une visite chaque semaine. Ce n'est pas trop. Une semaine, c'est long quand on est chez soi, hein. Mais si toutes les semaines il y a des visites, il ne va pas se décourager. Mais une seule personne ne peut pas forcément visiter une fois par semaine. Donc il faut 3 personnes, ça fait une fois toutes les 3 semaines. Ça c'est une organisation qui relève du diaconat, hein, l'assistance destinée aux saints les plus fragiles. Bon. Et donc là il y a une organisation effectivement concrète, on n'est pas dans une nébuleuse, on est dans des besoins véritables, hein, comme les besoins... Et donc on va répartir les services en fonction de besoins concrets et en fonction des vocations, des appels que Dieu a disposés. Pendant qu'un fait ça, un autre fait ça, et personne n'est surchargé et personne n'est inutile. Voilà, ça je ne vais pas l'écrire, mais c'est quand même ce vers quoi on devrait s'acheminer. Personne n'est surchargé, personne n'est inutile. Tout un programme ça quand même. Hein, voilà. Personne, comme dans une maison quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui fait tout et l'autre qui dort du matin au soir. Voilà. Chacun fait de telle sorte que personne n'est surchargé, personne n'est inutile. Moi, je peux parler plus facilement, et encore, des vocations, des services et des œuvres, mais qu'est-ce que je peux dire sur la manière dont Dieu donne à l'un une parole de sagesse, une parole de connaissance? Qu'est-ce que je peux dire à ce sujet? Je ne sais pas quoi vous dire. Parce que cette parole, elle est improvisée. C'est Dieu qui la donne ponctuellement par compassion, par utilité, par fidélité. C'est comme si vous me demandiez d'expliquer comment ma tête dit à ma main de se fermer et de s'ouvrir. Je ne sais pas vous expliquer, vous voyez. Et donc, sur les dons de l'esprit, simplement, il ne faut pas qu'ils soient vécus dans le désordre. Il ne faut pas qu'ils s'écartent de la parole. Il ne faut pas qu'ils deviennent un sujet de qu'est-ce qu'il faut dire, une attraction, pour dire, regardez chez nous, on fait ceci, on fait cela. Il faut qu'ils soient intégrés dans un projet d'église bien, bien cohérent. Mais comment Dieu donne, à qui il le donne et quand il le donne, moi je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Parce que par définition, c'est Dieu qui le préside, cela. Et là, je dirais, c'est à chacun, comme dit la sœur, c'est à chacun de dire, Seigneur, en se levant. En se levant, Seigneur, si tu as besoin de moi pour une situation, je suis là. Et en se couchant, de dire, Seigneur, si pendant cette nuit, tu veux me dire quelque chose, tu me réveilles, tu me le dis. Voilà. Ça, c'est l'attitude de disponibilité, jour et nuit. Et je connais par exemple une sœur en Cévennes qui plusieurs fois a prié pour quelqu'un, elle n'avait jamais entendu le nom de cette personne, et elle a intercédé pour cette personne. C'est quand même étonnant, hein. Je l'ai appelée, je peux vous donner son adresse. Voilà, elle est disponible. Et le Seigneur m'a dit, tu pries pour un tel, elle apprend plus tard que c'était quelqu'un qui traversait une épreuve, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux moi vous dire sur cette situation? Je ne peux pas, ça dépasse les compétences de tout le monde. Donc, voilà, dans le cadre des appels que Dieu donne à chacun, dans le cadre des services dans lesquels nous sommes tous engagés, avec une grande diversité, parce que celui qui a un service à lambda, il faudrait que tout le monde soit dans un service lambda. Je suis tout seul. Non, mais toi, c'est ton service, mais lui, il a un autre service pendant ce temps. Donc voilà, respectons la diversité, et puis les œuvres, elles vont découler des appels et des services. Là, il faut que chacun soit fidèle, et dans cette fidélité, il y a la réceptivité aux dons ponctuels, aux manifestations de l'esprit, que Dieu peut révéler, et tout ça dans l'amour. Parce que si j'ai tous les dons sans l'amour, et voilà.
Après, je ne crois pas qu'on puisse discerner qui a un don, quelqu'un qui a un don pour chanter, s'il ne chante pas, on ne sait pas qu'il a le don de chanter. Donc, pour que le don se révèle, il faut que d'abord il commence à servir.
C'est très important.
Pour que le don se révèle. Si on a dit, j'attends de recevoir le don pour faire, je ne ferai jamais rien.
C'est une très bonne remarque. Hein? J'ai entendu des grands prédicateurs qui ont dit, la première fois qu'on m'a demandé à prêcher, j'oserais pas écouter ma prédication. Et donc, ça démarrait comme ça, quoi. Ça démarrait comme ça. Mais ça a été la mise en route, hein, d'une vocation qui s'est formée, qui a appris et qui est devenue ensuite un vrai ministère.
Et après, une fois que le don s'est révélé,
oui,
il faut continuer à l'exercer.
C'est ça. Mais là, vous avez le mot don pour vocation, en fait.
Parce que Jacques le dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, commet un péché. Donc, si on a un don qui est révélé, il faut le mettre en œuvre.
Tout à fait.
Jusqu'à ce que Dieu nous dise, stop, je
pars. Tout à fait. Mais là, Jean, vous employez le mot don dans le sens de vocation, don de la grâce. Voilà. Donc, le don de la grâce, c'est quelque chose qu'il faut effectivement découvrir. Après, moi, je peux imaginer quelqu'un qui ne sait pas trop le dire, hein, mais il est quand même dans la fidélité. Vous voyez, il ne sait pas dire, moi, j'ai reçu cette vocation, mais quand même, il la vit. C'est comme je connais des catholiques, ils ne savent pas qu'ils sont sauvés, mais ils le sont quand même. Ils n'ont pas l'assurance, mais ils le sont quand même parce qu'ils ont vraiment mis leur cœur entre les mains de Jésus. Et donc, le fait de le savoir peut être utile, mais ce n'est pas nécessaire pour le vivre. Et donc, si quelqu'un dit, moi, je ne sais pas quelle vocation j'ai, eh bien, je lui dirai, ce que Dieu t'a mis à cœur de faire, fais-le. Et si tu le fais avec la mentalité qui était en Jésus, eh bien, tu vas avoir des œuvres qui apparaissent et des encouragements, des confirmations. Mais effectivement, c'est en cours de route. Effectivement.
Est-ce que vous avez prévu de parler sur Éphésiens 4 cet après-midi ?
Pas plus, non. Parce que quand on a défini le sujet, on n'a pas rappelé la notion des ministères. On a parlé des œuvres spirituelles. Mais les ministères, ils sont là, hein. Donc les cinq ministères d'Éphésiens 4, les cinq ministères d'Éphésiens 4, donc apôtre, évangéliste, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, pasteur et docteur. On ne sait pas si les deux derniers sont un seul ou pas. Bon. Eh bien ces cinq ministères, je crois qu'ils existent toujours aujourd'hui. Il faut juste essayer de comprendre ce qu'on doit mettre en terre derrière. Et je pense que ces cinq ministères, ils fécondent l'Église, comment dirais-je, ils représentent le ministère de Jésus partagé en cinq. Jésus était à la fois apôtre, évangéliste, prophète, pasteur et docteur. Et maintenant, personne n'est tout ça à lui tout seul. Un fait cela, l'autre fait ça. Et ensemble, ils assument le ministère de Christ. Et de cet ensemble de ministères bien accordés les uns avec les autres, découle l'équipement des saints. Voilà. Pas le perfectionnement des saints, comme dit la traduction second, mais l'équipement des saints. C'est-à-dire le désir et le moyen pour chacun de rentrer dans son service. L'équipement. Vous voyez, le mot équipement est très important. Voilà. Que personne ne dise, ben, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer. Voilà. Et donc là, ces ministères de la parole doivent éveiller et peut-être discerner aussi. Peut-être discerner, toi tu pourrais prêcher dimanche prochain et puis après on se voit et on en parle. Voilà, je crois que Dieu là peut donner des dons de connaissance ou des dons de discernement pour détecter quels sont les dons et les vocations. Je pense que c'est une vocation ou c'est un don de discerner les dons et les vocations.
Oui, c'était mon propos, mais pour répondre à Louisa, mais c'est moins pour votre intervention que pour l'organisation de l'Église. Ça, c'est le ministère pastoral qui aide à discerner ses dons. En tout cas,
je pense que oui.
Essentiellement, donc ce conseil pastoral, donc entre chacun qui les recherche, qui les propose, mais fondamentalement, c'est de les encourager,
oui.
De les cerner,
oui.
Et d'encourager chacun.
C'est
vrai que c'est vraiment un travail de chacun, et bon, selon et avec ou sans don spirituel pour
oui.
Cela,
oui, 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 oui.
Mais d'encourager. Et comme disait Hélène, c'est en fonction de manque, en disant, ben voilà, toi je te vois bien au champ, et puis vraiment de le demander à chacun. Bon, moi je le connais pour certaines personnes, j'ai vu quand le pasteur est parti qu'il y a des dons extraordinaires dans cette église,
oui.
Ils ne sont sans doute pas exploités. Mais il faut que le conseil pastoral à aller chercher, les encourager un par un, puis demander à chacun, ben, toi, qu'est-ce que tu veux faire, où est-ce que tu en es, etc. Enfin, il me semble que c'est assez pragmatique. Je ne sais pas, Lisa, comment tu voyais la chose, mais...
Je ne sais pas, laisser le
monde. Mais justement, pour
voir... J'ai eu zéro proposition.
Non, non, mais c'était de voir
en fait,
chacun...
On a pas d'anciens, c'est sûr, le
il faut qu'on se connaisse mieux. Si on ne connaît pas les uns les autres, on ne peut pas discerner s'il y en a un dans le discernement, on ne peut pas discerner si l'autre ne le connaît pas, si on ne l'a jamais partagé avec.
Oui, bah c'est pour ça que je dis c'est ministère pastoral, parce que par définition, c'est de connaître chacun. C'est pour ça que c'est un conservateur aussi. Et là, on ne peut pas ne pas connaître les membres.
On peut se connaître entre nous, je pense que c'est pour le dirigeant. Oui. Et je suis assez OK. Là, on n'a pas de pasteur, on ne va pas l'inventer.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'entre nous, c'est peut-être une piste, c'est de mieux se connaître personnellement pour détecter ce qu'il y a chez l'autre. Et je disais, genre, moi, c'est vrai que je n'ai pas de. J'ai rien à proposer, quoi. C'était une question naïve, parce que je ne suis pas questionnée, mais j'ai pas de proposition.
Pour les pasteurs, on parle de vocation intérieure et de vocation extérieure. Ça veut dire quoi? Dans le mot vocation, il y a le mot appel. Hein? Vocare, ça veut dire appeler. Donc la vocation intérieure, c'est-à-dire que quelqu'un ressent cet appel au fond de lui. Mais ça peut être confus, ça peut être diffus, ça peut être à peine une petite lumière qui dit oui, non. Si toute son enfance, on a dit à cet enfant, tu ne feras rien de ta vie, il dit, bon, ben, je ne ferai rien de ma vie. Quoi. Donc il n'ose pas. La vocation extérieure, c'est les autres qui confirme cet appel, qu'ils reconnaissent ou qu'ils le suscitent. Voilà. Et donc, les deux doivent, plus le Saint-Esprit, voilà, ça fait trois. L'appel intérieur, quand le Saint-Esprit parle au cœur de quelqu'un, mais la personne ne peut ne pas être consciente de ça. Et donc, quelqu'un d'autre doit être conscient pour lui, quelque part. Vous voyez, donc là, c'est le regard qui discerne. Et qui donne ce regard? C'est Jésus-Christ, voilà. Mettons vraiment Jésus au centre. Parce que celui qui donne, celui qui révèle, celui qui appelle, celui qui pourvoit, celui qui dote, c'est Jésus. Avec le Saint-Esprit, bien sûr. Hein. Et donc, nous, on est juste là pour essayer d'aider à ce que ça se mette en place, disons. Hein. On ne va pas le faire à la place de Jésus.
C'est vrai que hier, moi, j'ai noté l'Église est témoin et aussi active. Hein.
Oui.
Alors, effectivement... il y a des besoins dans l'Église.
Oui.
Et aussi, comment dirais-je, il y a beaucoup, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, que ce soit le côté rendre visite, mais aussi le côté pasteur, accompagner les personnes, parce qu'on a des personnes qui ont été baptisées il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de besoins différents.
Oui.
De jeunes. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est aussi dans toutes les églises, il y a des besoins. Il y a des je ne sais pas si j'ai bien expliqué. C'est-à-dire que dans les églises, il y a des besoins. Mais il faut savoir, alors des fois, on peut avoir, certaines personnes peuvent voir peut-être qu'un tel serait bien, aurait la vocation. Alors c'est ça, je ne sais pas comment dire, à quel moment, justement, c'est chacun, si on pense qu'un tel, qu'une personne a une vocation particulière, il faut aller vers la personne, pour lui dire, et est-ce qu'après, il y a cette histoire d'imposer les mains, ou pas forcément, en fait.
Pas forcément, mais pourquoi pas L'imposition des mains, c'est un envoi vers un service. Donc, le faire une fois dans la vie, c'est pas beaucoup. Le faire toutes les 10 minutes, c'est trop. Et je veux dire, voilà, il y a une mesure envoyée au service. Moi, si quelqu'un m'envoie au service, je suis plus fort que si je vais tout seul, vous comprenez? Parce que ça veut dire qu'il y a une main d'association, ça veut dire qu'il y a un esprit d'équipe derrière. Même spirituellement, on est plus fort quand on est envoyé que quand on va tout seul. Un ambassadeur, il est envoyé. C'est lui qui signe, mais enfin quelqu'un l'a envoyé, il représente ceux qui l'ont envoyé, vous comprenez? Donc cette notion de corps, elle est très importante, là, d'être envoyé avec une bénédiction, de manière, voilà, c'est pas forcément pour 30 ans, hein, c'est pas forcément pour 30 ans, mais c'est en tout cas pour un temps donné. Oui, alors, lui, comme on l'a dit, je crois qu'effectivement le ministère des anciens, qui relève du ministère pastoral, le ministère des anciens, je dirais, c'est de veiller à ce que chaque membre grandisse. Voilà. Chaque membre a-t-il ce qu'il faut pour grandir? Et si chaque membre grandit, la maturité va se multiplier dans l'Église. Hein. Elle grandit chez chacun, donc autant on est, y compris chez les enfants. Il peut y avoir dans une église des enfants de 12 ans qui ont déjà une grande maturité. C'est pas impossible, hein. Vraiment. Et puis par contre, il peut y avoir des gens de 40 ans qui n'ont pas de maturité, on ne peut rien leur confier. Voilà, ils ne sont pas sûrs, c'est dommage. Donc, veillez à ce que chacun grandisse, et dans cette croissance, ben, ce n'est pas simplement pour moi, c'est pour répondre à un appel, entrer dans un service, et produire des œuvres dont tout le monde sera témoin quand même. Même celles qui sont faites en secret, tôt ou tard, le fruit va se... Voyez, par exemple, dans ce mystère diaconal, on pourrait faire tout un week-end, hein, parce que quand même, les réformateurs du XVIe siècle ont moins parlé des cinq ministères que des deux axes de ministères anciens et diacres. Mais ce n'est pas pour rien quand même, hein, la Bible parle des anciens et des diacres. Philippiens 1 dit aux anciens et aux diacres, et à tous les saints. Bon, et puis évidemment, 1 Timothée 3. Les anciens, je le dirai très succinctement, ont pour vocation la croissance de chacun et de tous dans un ensemble. Les diacres ont la vocation de soutenir ceux qui seraient menacés de régresser. Alors, les diacres sont en soutien, l'assistance. Les personnes âgées. C'est tout un chapitre, les personnes âgées dans une église. Est-ce qu'elles comptent plus? Est-ce qu'on les oublie? Est-ce qu'on les visite? Est-ce qu'elles ont des choses à dire? Est-ce qu'elles se sentent encore utiles? Les personnes âgées, les personnes seules, qui sont menacées par un sentiment d'abandon, une rupture dans l'amour. Alors, je suis seul chez moi, qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes malades, j'en ai parlé ce matin. Les personnes démunies, qui ne peuvent pas joindre les deux bouts, parce qu'elles n'ont pas de ressources qu'il faut. Comment elles font? Certaines ont trop, d'autres n'ont pas assez. Bon. Le diaconat organise les dons et les vocations et les services pour que dans l'Église, personne ne se sente abandonné. Il n'y a rien de pire que le sentiment d'abandon. Voilà. Cette personne est seule dans sa maison, mais elle n'est pas abandonnée. Et pour ça, il y a une régularité dans le service. Et ce n'est pas évident d'aider quelqu'un qui se sent fragile. Hein, parce que souvent, cette personne, elle est susceptible, elle est sensible, elle a des pensées de découragement, il faut y aller avec beaucoup de tact. Pas se laisser berner non plus. Le ministère diaconal est très difficile et aussi important que le ministère des anciens. Un pousse en avant, l'autre empêche de reculer. Voilà. C'est acte 6. Hein. C'est acte 6 avec les... Voilà. Eh bien, je dirais que les anciens vont discerner dans le registre de l'édification, les diacres vont discerner dans le registre du soutien. Certains diraient anciens plutôt les hommes, diacres plutôt les femmes. C'est pas complètement insensé, hein. La femme au ministère de soutien, l'homme de direction. C'est pas insensé. Je serais moins. Pour les anciens, je serais d'accord. Pour les diacres, je pense qu'il y a des diacres hommes et femmes.
C'est quoi la définition des anciens? C'est quoi les anciens?
Des pasteurs.
Voilà, mais nous, on a pas
des pasteurs. Des pasteurs.
Là, le droit, on n'a pas d'anciens. Nous, le problème d'un entrée, on n'a pas d'anciens. Ah. Vous voyez ce que vous voulez dire,
non, mais
voilà, donc vous disiez, parce que bon, c'est vrai que vous vous dites, on va imposer les mêmes, quand moi je passais à Jean-Pierre, il a bien prêché, je lui dis tu prêches bien, ce serait bien que tu prêches plus souvent, alors ce serait bien que quelqu'un y aille imposer les mêmes, on n'a pas d'ancien dans l'église, et on n'a plus de pasteur. Donc c'est plus une interrogation. Voilà,
je me dis qu'il faut nous partir. Je trouve que Jean-Louis a bien présidé ce matin, donc il faut
que vous posiez. Il fait tout bien, mais on n'a pas d'anciens.
Oui, alors quelquefois il y a des anciens qui n'ont pas le titre.
Non, mais...
Et des fois il n'y a que le titre, mais ils ne le sont pas.
Mais les anciens, justement, on n'aura pas imposé les mêmes, parce qu'ils sont anciens. Ils prennent une autorité dans l'église, oui. Voilà. Moi, je
voyais comme dans la Bible, on ne prend pas l'autorité, on la lui délègue.
L'idée, c'est surtout juste deux mots sur le fonctionnement de ce que vous avez dit de livre. C'est intéressant, il y a un passage qui expliquera bien mieux que ce que je dis en deux secondes. Anciens, conseillers, etc. En gros, je le fais court, dans les unions d'Église libre, le conseil et le pasteur ont la responsabilité pastorale. Il n'y a pas ce terme d'ancien dans les Églises libres. C'est assez bien expliqué si vous allez sur le site des Églises c'est assez bien expliqué. Hein, le...
Mais ça parle justement, ça parle de la Bible.
C'est pas basé sur la Bible.
Voilà, c'est pas basé sur la Bible. C'est pas
spirituel. Non, mais c'est quand tu dis, voilà, il y a par la terre. Et ce qui est expliqué aussi, c'est le risque de tenir le terme d'ancien, donc de respecter dans la lettre ce qui est écrit dans la Bible, sans en respecter le fond, ce qui a malheureusement été souvent le cas de contre-témoignages dans les églises diverses et variées. Voilà, c'est simplement que dans notre union d'église, effectivement, le mode de fonctionnement, c'est un conseil, une responsabilité pastorale qui est exercée par le pasteur et les conseillers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout une notion de conseiller, j'allais dire entre guillemets administratif, de régler les problèmes, qui s'occupe de répartir le ménage, l'enseignement des enfants, je ne sais quoi, les tâches, tout le
logistique. Si vous me permettez, moi qui étais dans d'autres églises, il y avait un conseil d'anciens et un conseil d'administration. Moi j'ai fait partie du conseil d'administration, pas du conseil d'anciens, parce que c'est réservé aux hommes aussi, je pense. On ne gérait pas les toilettes et tout comme ça. On gérait le côté administratif, c'est-à-dire le bâtiment, comment ça fonctionnait. C'était pas de distribuer les tâches.
Non, mais après,
on avait un conseil d'anciens pour être conforme à la parole.
Voilà.
Après, dans notre église, dans l'union, il n'y en a pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais voilà. Je pense qu'il faut être clair sur le fait qu'on n'a pas suivi le modèle biblique.
Alors, je vous invite vraiment, 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 parce que là, on est dans la complexité. Donc, la complexité, il n'y a pas de réponse simple. Je crois que sur le conseil presbytéral, il y a 35 pages. Ce n'est pas énorme, mais il y a quand même 35 pages qui explique un petit peu pourquoi les églises libres en sont venues là.
C'est ça.
Église libre qui reconnaît, comme toutes les églises de professants, la valeur intangible de la Bible, enfin, soit la scriptura, soit la gratia, soit la fides, Dieu seul en gloire. Hein,
mais, oui. Dans certaines églises, il y a les anciens et les diacres, il y a les super chrétiens et les sous-fifres. Mais ça,
non, pas comme ça.
Non, mais ça peut.
Il y a des risques tout le temps. Hein.
Et ça, je me souviens quand on a eu M. Marcus comme pasteur, il nous a dit, il nous a répété et répété, nous sommes tous égaux et nous avons tous besoin d'être pardonnés et nous avons besoin du Seigneur.
C'est
basique,
c'est vrai.
Oui. Et le fait qu'il y ait mais c'est un ancien, ça risque de créer des complexes pour certains et puis pour d'autres, enfin.
Ouais, mais ça, c'est ça que dans les
assemblées de fer, il y a des anciens, mais qui sont reconnus d'une manière tacite et non nommés officiellement. C'est-à-dire qu'ils sont reconnus par l'assemblée, ils exercent leur ministère d'ancien, mais sans le titre. Sur la fonction, mais
c'est
ça.
Et probablement, dans cette église, il y a des personnes qui assument la tâche d'ancien, qu'elles en aient ou pas le titre. C'est pas le titre qui fait la fonction. Donc, je veux dire, voilà. Peut-être que le titre peut aider, quand même, à assumer, on l'a dit tout à l'heure, voilà, une reconnaissance. Ça peut devenir un piège aussi. Voilà, je suis ancien, plus personne ne va m'enseigner, j'ai tout compris. Voilà. Bon, des dangers, il y en a partout. Moi, je dirais que le mot ancien soit employé ou pas, la fonction existe. J'espère que oui. Et si elle existe, eh bien, il faut la reconnaître et l'encourager, tout simplement. Hein.
Si elle n'existe pas,
mais elle existe. Je pense qu'elle existe. Elle peut grandir, elle peut évoluer.
Pourquoi dans cette église, on m'a dit, bon, il n'y a pas d'anciens, mais pour moi, les conseillers sont des anciens, voilà, parce que c'est leur rôle. S'ils l'ont pris, c'est une vocation. On ne peut pas prendre un rôle de conseil d'église sans cette vocation. Ce n'est pas à moi de dire, c'est l'assemblée qui est ici, mais pour moi, ce sont eux les anciens. C'est comme ça que je le comprends. Ouais. Mais je sais que quand je dis le terme ici, on me dit, non, il n'y a pas d'anciens. Mais on ne peut pas dire, je suis au conseil d'administration de cette église, mais je ne suis pas un ancien. Ça, c'est parce que c'est absolument pas biblique. C'est-à-dire que ce n'est pas une association. On n'est pas dans une association. Donc, Malgré tout, l'Union dit que c'est un conseil pastoral. La responsabilité devant le Seigneur, il faut être clair, appartient à ceux qui l'ont prise. Donc, il faut quand même qu'on dise que, pour moi, c'est un terme, c'est le conseil, ce sont les anciens.
Oui, c'est pour toi.
Voilà, c'est pour toi. La Bible donne des critères pour être ancien.
J'ai pas de mal à
oui,
dire.
Oui, critères de base, déjà.
C'est vrai, mais vous voyez, alors, la remarque de Jean. La Bible donne des critères pour être ancien, mais elle dit qu'ils sont des modèles. Ça veut dire que ces critères sont pour tous, ce sont des modèles. Et donc, vous voyez, si un ancien doit être mari d'une seule femme, tout chrétien doit être mari d'une seule femme. C'est vrai. Oui. Voilà, donc, s'il n'est pas marié, eh bien, tant pis pour lui, tant mieux. Oh là là, ça déguise.
Il n'y a pas écrit qu'il doit être marié. Il y a marqué mari d'une seule femme. S'il n'est pas marié, ça va être après. Il ne faut pas se marier.
Voilà, c'est ça. Non, mais, vous voyez, le mot modèle, j'espère que tout le monde ici peut devenir le modèle pour quelqu'un d'autre. Et donc, ce qui serait dangereux, c'est que les anciens s'approprient la fonction pastorale en disant maintenant, c'est nous. Donc, on n'a plus besoin de Jésus et vous, vous n'avez qu'à nous regarder. Ce serait très dangereux, n'est-ce pas? Parce que le pasteur, le grand pasteur des brebis, c'est quand même Jésus-Christ. Et donc, tout chrétien qui attire les regards vers Jésus, il a déjà quelque part une fonction pastorale. Et donc, tout chrétien qui dirige bien sa maison est un peu le pasteur dans sa maison, quand même. Calvin le dit. L'homme et la femme sont les pasteurs dans leur maison. Vous comprenez? Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tous pasteurs, mais ça veut dire que, vous voyez, il y a une participation. Un petit garçon de 10 ans qui donne la main à sa petite sœur de 4 ans, il est déjà un peu un pasteur, il est un frère aîné, il est un conducteur. Un enfant qui dit à un voyageur, voilà, le chemin pour aller à l'hôtel, c'est après le pont à gauche. Il donne une direction, vous comprenez? Et donc, la fonction pastorale, tous ceux qui ont Jésus-Christ pour pasteur sont porteurs d'une fonction pastorale. Sans pour autant être pasteur. On n'est pas tous pasteurs.
Et pourquoi certaines églises alors font le distinguo avec le conseil d'administration, ils gèrent les affaires de la vie, de l'assemblée, et un conseil d'anciens spirituel qui est là pour s'occuper des brebis.
D'abord, tout est spirituel. D'abord, tout est spirituel. Les comptes spirituels, la vaisselle, c'est spirituel. Le ménage, c'est spirituel. Transporter quelqu'un en voiture, c'est spirituel. La comptabilité, c'est spirituel. Donc, tout est spirituel. Mais je crois que le piège, c'est qu'en 1905, après un siècle de concordat, où les églises étaient organisées par l'État, où les anciens étaient choisis parmi les personnes les plus imposées de l'Église, donc les plus riches. Vous voyez un petit peu le modèle. Pendant un siècle, jusqu'en 1905, tout d'un coup, tout ça disparaît, et l'État dit, maintenant, il faut vous organiser en association culturelle. Donc un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier, des membres électeurs, une assemblée générale, etc. Et donc les églises se sont moulées dans ce moule-là, et sont devenues des associations. Et le modèle associatif s'est imposé. Voilà. Alors, dans mon union d'église, ça s'est passé comme ça. On élit un conseil d'administration, un président, un secrétaire, un trésorier, ça veut dire ceux qui parlent bien, ceux qui réfléchissent, ceux qui ont un peu du temps, ceux qui ont de la culture, quelquefois ceux qui ont une maison un peu plus belle que les autres, quelquefois ceux, on va, oui, ça va l'encourager de venir au culte si on le nomme au conseil, enfin, on a tout vu, vous voyez. C'est le conseil d'administration de l'église, et on dit, vous êtes les anciens de l'église. C'est bizarre, hein. Et au bout de 20 ans de ministère dans un conseil presbytéral, ils apprennent, ils disent, mais c'est quoi un ancien au fait? Et donc là, on a essayé de superposer deux structures qui ne sont pas de la même nature. Une est administrative et l'autre est ministérielle, ça veut dire donnée par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans notre union, on est de nouveau en train de dissocier les deux.
Et c'est que exactement ça, c'est-à-dire qu'on a mélangé un concordat qui est arrivé et une association, l'histoire c'est ça. L'histoire de nos églises libres
date du 1850.
Certains le savent, c'est 1850, quand un certain nombre d'églises se sont dit maintenant, on va arrêter d'être que nos pasteurs soient payés par l'État, on va cotiser, on va payer nous nos pasteurs.
50 ans avant les autres.
50 ans avant les autres, avec tout un parcours, d'abord en dehors de la laïcité, puis. En 1905, la laïcité, bien sûr, les unions des églises libres ont promu, bien sûr, la la loi de la laïcité, la réforme et les guerres de religion étaient passées par là, bien entendu, mais c'est pas inintéressant. Je vois que Marc a lu quelques pages des anciens du Conseil. C'est pas inintéressant qu'une église qui est goûtée à la fois à une rupture avec le concordat et l'histoire de la laïcité qu'elle a soutenue de toute son énergie, bien entendu, à un moment fonctionne comme ça. Après, on peut fonctionner différemment, c'est pas gravé dans le marbre, mais pour les théologiens qui ont participé à ça, ça n'a pas paru du tout anti-parole de Dieu. Après, c'est les choses sont. Moi, ce qui m'a rassuré dans ce que j'ai entendu, c'est que ce soit parler en langue, l'interprétation, bon, notre pasteur que nous accueillons aujourd'hui a un questionnement. En tout cas, pas de réponse simple. Je vous rappelle dans notre église, concernant les miracles qui ont été évoqués et pour lesquels on n'a pas, c'est pas une formule magique. On sait tous, pour les plus anciens d'entre nous, on a vécu avec des frères et des sœurs avec, je pense, une maladie particulière qui s'appelle un lymphome. On a prié à un moment pour un frère, l'issue a quand même été fatale. Quelques années après, une sœur a fait la même maladie, qui était condamnée par les médecins. On a prié et l'issue a été, je ne sais pas comment dire, miraculeuse. En tout cas, elle est guérie et 20 ans avec un recul de 25 ans, elle est toujours guérie en émission. Donc, les réponses, plein de points d'interrogation, pas de réponse simple à toutes les questions. Hein, c'est je ne sais pas quel est votre vécu, mais c'est.
C'est pour ça que j'ai dit ça, alors je me suis peut-être fait comprendre. De tout ce qu'on a parlé, à un moment donné, vous avez dit c'est vrai qu'on impose l'humain pour une guérison. Moi, j'ai eu ma petite fille qui a été guérie, c'est Glamchou, une ancienne, qui avait prié pour elle. Mais voilà, en ce moment, dans notre église, je me disais si un frère, on dit c'est vrai, il vient pour prêcher parce qu'il prêche bien. Mais qui va lui imposer les mains? C'est ça que je voulais dire. Après, je ne veux pas critiquer, mais je me dis, c'est dommage dans notre église qu'il n'y a pas d'ancien pour imposer les mains.
Le conseil de l'église pourrait déléguer 3 personnes qui, au nom de l'église, vont imposer les mains.
À ma connaissance, dans notre assemblée, d'autres pourront en dire, moi j'ai en tête 2 personnes à qui le pasteur et 2-3 conseillers sont venus imposer les mains à leur demande.
C'est
le
même pasteur. Il y a
également le pasteur. Avec le pasteur. Le pasteur et deux membres du conseil. Ouais. Là, on est en vacances pastorales.
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Le pasteur n'a pas de super pouvoir pour envoyer en mission. C'est la collectivité, c'est le conseil, c'est collégial que le discernement doit s'exercer. Le pasteur ne va pas décider tout seul. Je pense à ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 6. Il dit, il y a des disputes entre vous. C'est quand même dommage devant les non-croyants. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous accorder? Et Paul ajoute, n'y a-t-il pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères? Et il ne dit pas un ancien. Il dit un homme sage. Et donc un homme sage, qui est ou pas le titre d'ancien, il est reconnu comme ayant une sagesse donnée par Dieu, et il va pouvoir élucider une situation qui est en train de s'envenimer, vous voyez. Donc, moi je pense que le ministère d'ancien est un ministère biblique, celui de diacre aussi, de restaurer cela, parce qu'en France, ça s'est perdu à cause des persécutions, à cause de la laïcité, tout ça. Moi, je crois qu'il faudrait les restaurer, mais c'est pas parce que ces ministères ne sont pas reconnus officiellement dans ces termes-là que il y a une vacance totale. Voyez, tout homme sage porte en lui les germes d'un ministère de nature pastorale. Tout homme sage. Et toute femme sage porte en elle déjà qu'on écoute ce qu'elles disent, quoi. Ce qu'elles sages qu'on écoute, voyez. Parce que Christ est en train de répandre et de secourir son Église, j'allais dire qui est ou pas d'ancien. Il vaut mieux qu'il n'y en ait pas que ça des mauvais. Voilà. Enfin, je parle sérieusement, hein. Je ne sais pas quelle heure c'est, en fait. C'est l'heure s'arrêter. Comment on conclut ? On demande à une personne de prier ? Oui,
il y a peut-être donc quelques mots après.
Oui, monsieur.
Non, d'accord.
C'est bien. On a mis une heure et demie de réunion. Après, ça fait trop. Vous aurez mes notes. Vous aurez mes notes. Voilà. Je vous enverrai mes notes. Ça va me demander un peu de temps pour les finir de les mettre au propre, les faire relire. Et puis, d'ici la fin de la semaine, j'espère que je vous enverrai mes notes. Et chacun pourra les avoir. Oui.
Juste pour dire, comme on n'a pas de pasteur,
oui,
mais quand même il y a un besoin de la fonction pastorale de paître les brebis.
Oui.
Ce que je voulais juste dire, c'est que les gens, quand ils ont des besoins, ils peuvent quand même s'approcher de personnes avec qui ils sentent qu'ils ont le besoin de prier.
Oui.
Parce que je me souviens que même des fois, quand on avait un pasteur, il y avait des personnes qui n'allaient pas s'approcher du pasteur, forcément, parce que des fois, il y a quand même, de même que quelqu'un a une reconnaissance pastorale, des fois, on a plus envie de prier ou d'échanger avec une autre personne.
Oui.
C'est juste que je pense que, voilà, comme on est tous une église,
oui,
que chacun peut aussi se sentir d'approcher une personne avec qui,
oui,
quand on a des besoins.
Oui.
Mais le pasteur n'a pas tous les dons.
Voilà, c'est ça.
En gros, donc, c'est ça.
Donc, voilà. C'est bien de terminer avec la remarque de Christine, je trouve, parce qu'elle répartit de nouveau le soutien dans la mutualité, hein. Aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres. C'est des termes pastoraux, tout ça, associés à l'expression les uns les autres. Et donc, quand il y a un pasteur, d'abord, je connais plein d'églises avec des pasteurs qui ont des problèmes. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut pas qu'il y ait de pasteur, mais le pasteur ne résout pas tout. Et quelquefois, il complexifie les choses parce qu'il arrive avec son projet, son programme, etc. Et ensuite, le pasteur peut faire de l'ombre à Jésus-Christ. Voilà, on le regarde, il a dit ça, il n'a pas dit ça, il a fait ça. C'est un peu dommage aussi, il y a des églises qui se réveillent quand le pasteur s'en va. Je parle là en général. Hein. Et puis, voilà, nous sommes un peu les pasteurs les uns des autres, en veillant les uns sur les autres. Une femme âgée peut être l'accompagnatrice d'une femme plus jeune. Un homme mûr peut être l'accompagnateur d'un jeune homme ou d'un autre homme, vous comprenez. Et donc cette veille mutuelle, elle doit se développer dans l'église, sans esprit de supériorité, de propriété, de domination, et que chacun déjà ait un confident. Que chacun ait un confident, à qui il puisse téléphoner ou frapper à la porte de sa maison, presque n'importe quand, pour dire en ce moment ça ne va pas, est-ce qu'on peut prier ensemble. Et ça me paraît le béaba. Un homme avec un homme, une femme avec une femme, évidemment. Voilà, évidemment, ou presque évidemment. Et donc, c'est un premier échelon d'accompagnement pastoral, comprenez. Et voilà, quand tu as un pasteur, il y en a qui téléphonent au pasteur trois fois par jour, d'autres téléphonent tous les 30 ans. Il reste plein de lacunes avec un pasteur aussi. Et donc, l'important, c'est qu'il y ait des chrétiens matures qui aiment le Seigneur dans l'Église. C'est le plus important quand même. Le pasteur, c'est Jésus. Hein. Le grand pasteur, c'est Jésus.
Le groupe de maison contribue bien
à ce que... Oui, bien sûr que oui. Il faut, pour reprendre l'expression à la mode, il faut veiller sur les personnes qui passent à travers les trous de la raquette. Hein. Vous connaissez l'expression. Hein. Ce sont des personnes qui sont dans aucun groupe, hein, et qui attendent qu'on les visite. Hein. Voilà. Il faudrait cibler ces personnes et apporter le pain et le vin du repas du Seigneur aux membres engagés qui ne peuvent plus sortir de leur maison. Ça me paraît une tâche très importante. Jean, est-ce que vous voudriez prier pour conclure ce moment d'échange?
Éternel, nous voulons nous présenter devant toi et te dire merci pour tout ce que nous avons entendu, partagé. Seigneur, que cela puisse travailler en chacun de nous et faire germer, Seigneur, cette graine de don que tu as confiée à chacun de nous pour un service qui rende gloire à ton nom, dans ton Église, Seigneur. Merci de nous avoir envoyé Charles. Te demandons de le bénir et de le fortifier, Seigneur, encore pour de longues années. Que toute chose, Seigneur, ce que nous avons reçu hier et aujourd'hui, puisse nous construire, nous édifier les uns les autres, afin qu'ensemble nous puissions marcher dans la même direction que tu as tracée, Seigneur, pour nous, pour ton Église. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Et nous voulons te rendre gloire à toi tout seul, car c'est toi qui as suscité en nous, Seigneur, le désir d'avancer ensemble. Amen. Gloire à toi, Jésus-Christ, oui, Seigneur. Notre Seigneur et Sauveur.
Amen. 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 Merci.
Merci.